lorsque nous évoquons la colère humaine et que nous nous tournons vers notre modèle, le Christ, nous pensons forcément à cet épisode de sa colère. Événement étonnant que ce passage de Jésus au temple où il chasse les vendeurs avec force. La colère de Jésus, cette sainte colère, atteste que la colère n'est pas nécessairement un péché, comme cela est très bien expliqué dans le chapitre. L'objet de cette colère est juste, le scandale devant la profanation du temple. Son intention est droite. Jésus donne une leçon de justice par rapport à la pureté de la religion. Il donne également un signe prophétique par rapport à sa passion. Et cette colère est mesurée. En tout cas, elle n'est pas disproportionnée. Il n'y a pas de blessés dans l'affaire. Les vendeurs sont juste chassés, déplacés. Cette colère que Jésus a estimée opportune met l'accent, par contraste, sur cet autre épisode de sa vie où il ne s'est pas mis en colère. Et c'est le moment de sa passion. Le chapitre en parlait également en passant. On doit d'autant plus le remarquer que cette colère au temple était une annonce de la passion. Si cette profanation du temple était scandaleuse, combien plus le serait la profanation du vrai temple, le corps de Jésus? L'injustice envers Jésus était infiniment plus grave, car le temple de pierre n'était finalement qu'un symbole, le symbole de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Jésus est la vraie présence de Dieu dans l'humanité. Et les événements de la Passion sont donc les actes les plus graves commis contre la sainteté de Dieu. Jésus n'a alors pas manifesté de colère, mais au contraire, l'immensité de sa miséricorde. Il a laissé la colère du diable se déchaîner sur lui pour le vaincre par sa charité, par son amour. Par notre baptême, nous sommes consacrés à Dieu. Nous sommes aussi des temples du Saint-Esprit, comme des prolongements de la chair même du Christ. Tous les péchés qui marquent notre vie humaine sont donc aussi comme des profanations. Non seulement nous n'agissons pas selon notre dignité humaine, mais encore nous blessons notre dignité d'enfant de Dieu. Il y a là une profonde injustice envers Dieu qui devrait engendrer une sainte colère. En réalité, c'est un peu compliqué de se mettre en colère contre soi-même d'une manière tout à fait saine, mais nous essayons au moins de ressentir de la peine, de la tristesse face à notre misère. Et cela nous incite à la conversion. Comme Jésus l'a fait en notre nom, dans sa passion, nous pouvons exprimer par nos larmes ce regret. Alors nous accueillons la miséricorde infinie du Seigneur et nous retrouvons le courage de prendre le bon chemin. Il est difficile pour nous de vivre une colère parfaitement pure de tout péché, comme Jésus. Mais le fait même qu'il ait su incarner ce mystère nous invite à méditer sur la pertinence de cette colère comme la manifestation d'un attribut de Dieu. L'expression de la colère de Dieu, on la retrouve souvent dans la Bible, et c'est même parfois la fureur de Dieu. Elle n'apparaît pas que dans l'Ancien Testament. Il y en a aussi des attestations dans le Nouveau Testament. Cette colère de Dieu, ce n'est pas seulement un anthropomorphisme, le fait d'attribuer à Dieu des émotions humaines, mais une manière d'exprimer la gravité et la radicalité du jugement de Dieu. À la fin, Dieu est juge. Cela n'enlève rien à la bonne nouvelle de sa miséricorde. Les deux sont inséparables. Il est juge impartial, en colère contre le péché. ou même en guerre contre le péché. Mais il est en même temps miséricordieux et doux envers les personnes, les pécheurs qui s'ouvrent à sa grâce. En annonçant la venue de Jésus, Jean-Baptiste parlait de cette colère. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit « Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient ?» Et saint Paul, dans la lettre aux Colossiens, « Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais, et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Voilà ce qui provoque la colère de Dieu contre ceux qui lui désobéissent. » Ces mentions de la colère de Dieu ne doivent pas nous désarçonner. C'est une manière d'exprimer sa parfaite justice. Souvent, cette colère de Dieu ne vient pas toute seule. On attribue aussi la jalousie à Dieu, à l'image de cette jalousie qui peut marquer la vie des couples mariés face à une infidélité. Dieu se montre jaloux quand Israël lui est infidèle, lui qui est comme l'époux de son peuple. Par exemple, dans l'Exode, « Tu ne feras aucune idole, tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Nous avons parlé des péchés de jalousie et d'envie le mois dernier, mais il s'agit de quelque chose qui n'a aucun sens en Dieu. Il ne peut envier rien ni personne, puisqu'il est la source de tout ce qui existe. Comment une jalousie peut-elle être présente en Dieu, sinon comme une forme de colère contre une profonde injustice? Quand l'homme rend un culte aux idoles, cela ne donne pas davantage de vie à ces idoles, elles restent des pantins. Mais cela abîme l'homme en coupant sa relation au vrai Dieu, au seul Dieu. Et devant un tel gâchis, il y a de quoi se mettre en colère. Telle est la nature de cette colère divine, de cette jalousie, qui ne ressemble finalement pas tant que cela à nos manières d'agir. Car en Dieu, tout vient de sa bonté, tout vient de son amour. Finalement, pour en revenir à nos colères, où le péché est trop souvent présent, il nous faut ambitionner de communier vraiment à la manière de voir de Dieu, et c'est cela que permet la foi. En particulier, nous pouvons demander à l'Esprit-Saint de renforcer en nous ces dons que nous avons reçus à la confirmation. Par le don de science, nous apprenons à perfectionner notre jugement, à discerner avec certitude le vrai du faux, le bien du mal. Par le don de sagesse surtout, nous entrons dans le regard de Dieu, dans une perspective plus large et paisible. Cela nous permet de relativiser les situations, de comprendre les intentions et les faiblesses d'autrui, et de répondre avec patience plutôt qu'avec impulsivité. En un mot, nous entrons dans la pédagogie du Seigneur, qui est Père, à la fois parfaitement juste et extrêmement patient. Cela n'évitera pas certaines colères, les justes colères, au sujet des situations qui irritent Dieu lui-même, mais nous saurons les vivre avec le regard plein de bonté du Seigneur, avec sa patience et sa miséricorde. Devant les injustices d'ici-bas, nous ne perdrons pas cœur, en pensant à la plénitude de justice qui nous attend à la fin et qui sera également la plénitude de l'amour et la plénitude de la joie.